J'aimerais revenir pour notre méditation sur ce soir sur quelques pensées sur ce livre de Ruth. Et j'ai donné comme titre ce soir que Dieu œuvre ou Dieu travaille là où nous nous y attendons le moins. Dieu œuvre là où nous nous y attendons le moins. Parce que quand nous lisons ce tout petit livre qui n'a que quatre chapitres, et si vous n'avez pas lu récemment, je vous encourage vivement à le relire. Ça va vous prendre que quelques minutes seulement. Mais tout est dans ce livre pour nous surprendre, en fait, pour nous émerveiller de comment Dieu est à l'œuvre, d'où Dieu est à l'œuvre, et de la part de qui ou en qui aussi Dieu est à l'œuvre. Et donc la leçon est simple en lisant ce livre, c'est que Dieu œuvre là où nous nous y attendons le moins. Et les applications, je vous donne dès le début. Les applications, c'est qu'il n'y a pas de famille trop insignifiante, il n'y a pas de veuve trop pauvre, il n'y a pas d'immigrant trop peu instruit pour jouer un rôle important et essentiel dans le royaume de Dieu sur terre. Alors, si vous prenez un livre sur l'histoire de la France, et il y a quelques personnes qui bouquinent un peu plus à cause de ce confinement, mais imaginez que vous prenez un livre sur l'histoire de la France, quels seraient les titres de tous les chapitres ? Il porterait probablement les titres des grands hommes de l'histoire ou des grands événements de l'histoire de France. Est-ce que vous penserez trouver dans un livre sur l'histoire de la France un chapitre intitulé, je donne comme exemple, Ursula, la veuve polonaise qui a émigré à Sarcelles au XVIIIe siècle? Je le doute. Mais quand vous lisez la Bible, vous lisez des titres comme cela. Dieu s'intéresse tout d'un coup à une veuve païenne qui va venir comme émigrée dans le pays d'Israël. La Bible nous parle de Moïse, de Josué, des juges, et puis on tombe sur Ruth, la Moabite, la veuve, qui vient à un tout petit village de Juda qui s'appelle Bethléem. Et donc la leçon est simple. Dieu œuvre là où nous nous y attendons le moins. Et je veux juste noter quatre choses dans ce premier chapitre. Et la première chose que nous notons en lisant ce livre, c'est que dans une société dominée par les hommes, il est significatif que le livre ait été écrit sur deux femmes, dont une est païenne et l'autre est veuve. Enfin, les deux sont veuves, mais une est païenne. C'est les initiatives, en fait, de ces femmes qui ont permis de réaliser l'histoire que nous lisons dans ce livre. C'est Ruth, par exemple, qui va d'elle-même décider d'accompagner Naomi. C'est un choix individuel et autonome qu'elle fait. Elle n'est pas sous la contrainte ici d'un mari ou d'une tradition telle que les satis en Inde où elle devait, les hindous là devaient se faire brûler après le décès de leur mari. Mais c'était une contrainte extérieure qui souvent elle sentait qui les obligeait. Non, là, en fait, elle agit contre la culture. Et de façon autonome, et elle fait avancer l'histoire. Et c'est aussi la Naomi qui dit donc à Ruth après de quoi faire, comment agir envers Boaz, etc. C'est vraiment centré sur deux femmes. Une veuve et une païenne. Vous voyez la surprise. Là où Dieu peut œuvrer et faire avancer son plan. Deuxième remarque, en lisant ce livre, il s'agit d'une famille, on va dire, ordinaire, et non des exploits des grands. Il y a Moïse, comme j'ai dit, qui a 5 livres, et puis un livre qui s'appelle Josué, le serviteur de Moïse, et puis nous avons un livre qui s'appelle Juges, donc ce sont des fonctions, une fonction qu'avaient ces hommes pour diriger pour le peuple de Dieu, et puis nous avons ce livre de Ruth. Regardez comment ça commence, au verset 1, chapitre 1. « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Mahlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. » Vous voyez, c'est tout ce qu'on peut dire d'eux. Ils viennent de Bethléem. Mais il n'est pas un juge, il n'est pas forcément très riche, en fait il souffre, hein. C'est pour ça qu'il va partir, il va chercher à quoi manger, nourrir sa famille. Mais vous voyez, les dirigeants, les leaders, comme on dit, sont d'une importance capitale dans l'Église et dans le plan de Dieu. Mais pas que, pas seulement. Dieu a besoin des veuves aussi. Dieu a besoin des immigrés. Et c'est pour ça que hier, le pasteur Barnes a noté la présence de ces 5 femmes dans la généalogie de Jésus-Christ. Elles sont essentielles à l'histoire de la rédemption. La troisième chose que je veux noter, que c'est une histoire de fidélité au milieu d'un monde plein d'infidélité. Et je veux attirer votre attention sur le lieu où tout cela se déroule. Il dit dans le premier verset, « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils. » Nous allons voir que toute cette histoire est une histoire vraiment de fidélité. De Ruth envers sa belle-mère, de Naomi même envers le Seigneur, même dans sa tristesse. De Boaz envers Naomi et Ruth. Et tout cela se passe à Bethléem. Alors, quand je vous dis Bethléem, vous pensez à quoi? J'imagine que vous pensez à la naissance de Jésus-Christ. Mais il faut savoir que cette histoire se déroule bien avant la naissance de Jésus-Christ. Alors, je dis Bethléem, vous pensez à quoi d'autre? Peut-être que vous allez dire, bon, David, c'est le village, c'est la cité de David. Ce qui est vrai, mais cette histoire se déroule avant même la naissance de David. Bethléem, en fait, a déjà joué un rôle assez important dans la dernière grande histoire du livre des juges. Le livre des juges est là pour nous donner la décadence de ce pays qui descend, qui descend, qui descend plus loin et plus loin du Seigneur. Et la dernière histoire qui est la plus triste commence au chapitre 19. Donc peut-être vous pouvez reculer d'une ou deux pages dans vos Bibles. Regardez le Juges chapitre 19, les 2 premiers versets, Juges 19 verset 1. Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, prit pour concubine une femme, elle vient d'où? De Bethléem, de Juda. Sa concubine lui fut infidèle, et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem, de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Alors, je ne vais pas vous raconter cette histoire horrible, mais nous voyons que c'est un homme infidèle, parce qu'il prend une concubine, probablement ça a référence à une deuxième femme qu'il va prendre, et cette femme, il la prend donc de Bethléem. Or, cette concubine de Bethléem, lui aussi est infidèle, c'est ce qu'il dit au verset 2. Elle aussi est infidèle envers lui, et elle revient donc vers son père à Bethléem. Lui, il va retourner à Bethléem pour la chercher. Il, finalement, quand il arrive à quitter son beau-père, il a une situation de difficulté, de danger, et il va, dans un sens, lancer sa femme au loup, au sodomite, pour se sauver la peau. Il est encore vraiment très infidèle envers elle. Il refuse de la protéger, il se protège en sacrifiant cette concubine. Bethléem est donc le point de départ d'une méchante histoire qui devient incontrôlable à mesure que le péché engendre des péchés encore plus grands que ceux d'avant. Et nous avons, vous savez, facilement des préjugés contre des lieux ou des situations. Nous sommes facilement comme Nathanaël qui a dit, quand on venait lui parler de Jésus, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» C'est en Jean 1, 46. L'être humain, il pense comme cela. Il y a des endroits, il y a des situations où on ne s'attend à rien de bon, en fait. Hein, c'est comme les banlieues, ou certaines cités, ou certains départements peut-être, ou certaines familles, ou certaines histoires ou des passés que nous avons eus et que nous traînons un peu avec nous, et on se dit, les autres parfois, on se dit aussi, est-ce que quelque chose de bon peut venir de là? Et Bethléem, même le prophète plus tard, il va parler de la petitesse de ce village, mais surtout à cette époque, Bethléem est connu pour tout sauf ce qui est bon. Et c'est là même où Dieu est à l'œuvre. Là où on ne s'y attendait même pas. Finalement donc, c'est une histoire, ça c'est quatrième chose, de foi au milieu d'un monde plein d'incrédulité. Et ici je pense pas seulement au lieu, mais à l'époque. Quelle était l'époque de ce livre? Regardez le premier verset, premier chapitre de Ruth. Du temps des juges. Nous sommes dans le temps des juges. Il était comment le temps des juges? Je vous invite à regarder au verset juste avant Ruth 1, verset 1. C'est-à-dire le dernier verset de Juges. Et le dernier verset de Juges, Juges 21, 25. En ce temps-là, c'est-à-dire le temps des juges, il n'y avait point de roi en Israël. Alors il était comment ce temps? Ben chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ce qui lui semblait bon. Et c'est pour ça que nous avons eu des histoires comme nous avons à la fin de ce livre, parce que chacun faisait comme il lui semblait blanc. Et on se dit, mais à une époque telle que celle-là, qu'est-ce que Dieu peut faire? Et nous voyons, au milieu de même de cette incrédulité, Dieu était à l'œuvre. Et nous voyons la foi et la fidélité, l'honnêteté, la bonté, la bienveillance qui ressort même dans ce temps très sombre de l'histoire d'Israël. Ce n'était surtout pas le meilleur des temps, mais même dans ce contexte, Dieu est à l'œuvre. Alors, la leçon est simple, je la répète pour vous, Dieu œuvre là où nous nous y attendons le moins. Nous avons une veuve et une immigrée. Nous avons une famille simple qui ne partage aucune importance ou prestige. Nous avons un tout petit village connu pour tout sauf ce qui est bon. Et nous avons toute une époque qui est caractérisée par une incrédulité et une rébellion où chacun faisait ce qui lui semblait bon sans vraiment chercher ce que Dieu voulait, ce qui était bon aux yeux de Dieu. Mais Dieu était à l'œuvre même dans les ombres, même dans les lieux cachés et lointains. Parce que l'arrière-petit-fils de Ruth allait être David. Et de la lignée de David allait un jour venir le Messie. Vous voyez, Dieu était à l'œuvre. C'était un maillon très important dans la chaîne de l'œuvre de Dieu dans l'histoire. Et elle s'est passée là où personne ne s'y attendait. Alors tout est là pour nous surprendre, pour nous émerveiller. C'est encore comme ça que Dieu veut et aime travailler. Il aime prendre la folie du monde et en montrer sa sagesse. Il aime prendre la faiblesse du monde et démontrer à travers la faiblesse sa puissance. C'est un Dieu qui agit toujours pareil. Dieu veut nous émerveiller encore de comment il est à l'œuvre, de où il est à l'œuvre, et de en qui aussi, et par qui il est à l'œuvre. La leçon est simple, Dieu œuvre là où nous nous y attendons le moins. Donc il n'y a pas de famille trop insignifiante. Il n'y a pas de veuve trop pauvre. Il n'y a pas d'immigré qui ne parle pas assez bien le français ou qui n'est pas assez bien instruit pour jouer un rôle essentiel dans le royaume de Dieu. Et si Dieu, dans votre simplicité, dans votre humilité, voulait vous utiliser, ce serait pour lui une chose glorieuse, parce qu'il veut recevoir la gloire de tout ce qu'il fait. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous vivons des moments difficiles. Nous vivons dans un monde qui, malgré cette alerte que tu nous donnes, que la mort est si proche, refuse de se tourner en masse vers toi. Mais nous prions que tu sois à l'œuvre, dans l'ombre, ici et là, dans nos familles, dans des cœurs individuels, pour faire vraiment une grande œuvre à ta gloire. Et nous voulons chacun, chacune, nous donner entièrement à toi pour que nous puissions dire comme Ésaïe le prophète, nous voici, sers de nous comme tu veux, travaille en nous pour ta gloire, dans ce monde et dans les siècles à venir au ciel. À toi la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voilà, douce nuit dans le Seigneur, que Dieu vous garde et Dieu voulant, à demain.